Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour.
Merci
madame.
D'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le garde des Sceaux, bien sûr. Et on va parler du trafic de drogue, la lutte contre le trafic de drogue. Vous étiez hier à Marseille, accompagné du ministre de l'Intérieur, mais aussi du président de la République lui-même pour lancer cette opération XXL à Marseille de lutte contre la drogue. Ce matin, sur RMC, avec tous les auditeurs, on a débattu de cette question. Et on a eu beaucoup de témoignages de Marseille, mais aussi d'ailleurs. Et je voudrais tout de suite nous plonger au fond dans ce qu'est la drogue, au-delà des chiffres, au-delà des images. C'est le témoignage ce matin de Frédéric. Frédéric, il nous a appelé, il a 60 ans, il vit dans le Nord, il ne nous a pas dit exactement où, parce qu'évidemment, vous allez vite le comprendre, il ne veut pas qu'on sache où exactement il est, mais il travaille, il vit pas loin d'une cité difficile. Il dit, chez moi, c'est pas si difficile, mais précisément, c'est la raison pour laquelle il a été appelé par les dealers. Écoutez son témoignage.
Le dealer est venu me voir et il m'a dit, écoute, si tu veux nous faire la nourrice de 10h du matin à 2h de l'après-midi, quand on vient rechercher le matériel à 2h, on te donne entre 200 et 300 euros par jour. Donc, ce serait tout gagnant pour eux. Si ils ont besoin d'une barrette, bah, ils viennent chercher une barrette, je leur donne la barrette. Je leur dis non, je peux pas, j'ai trop à perdre, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai 60 ans, non, je... Ça m'a... C'est tentant.
Vous leur dites non, mais vous y pensez, quoi.
Bien sûr, l'argent.
L'argent, dit Frédéric, il touche aujourd'hui une pension d'invalidité de 508 euros par mois. Il lui propose 200 à 300 euros par jour. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Vous feriez quoi, vous?
Je ferais quoi?
Bah ouais.
J'appellerais les services de police. Ce que nous souhaitons faire, c'est inciter les nourrices, notamment. Mais également les parents des gamins qui sont recrutés. Parce que il y a ce monsieur qui est dans une certaine précarité. Il y a aussi les gamins qui ont dit 200 euros par jour. C'est tentant. Alors, il y a tout un volet financier. D'abord, on saisit les avoirs criminels. L'année dernière, c'est 1,4 milliard de saisies d'avoirs criminels. C'est un organisme qui s'appelle l'AGRASC. Il n'y en avait qu'un seul à Paris. J'en ai créé partout, notamment à Marseille. Et puis, nous voulons inciter ceux qui entrent dans ce trafic, qui ne sont pas mouillés jusqu'au cou, on veut les inciter à parler. Vous savez, la grande difficulté judiciaire, c'est un mot sicilien, c'est l'omerta. On se tait. On se tait parce qu'on a peur. Et parce qu'il y a de vraies menaces.
C'est ce que disait Frédéric, hein, d'ailleurs, quand je lui ai reposé la question. Est-ce que vous avez peur? Il dit pour l'instant pas vraiment, mais on comprend qu'ils sont insistants, qu'ils sont venus, qu'ils sont revenus. Il est en pension d'invalidité, il sort très peu de chez lui.
Menaçant. On menace l'intéressé lui-même, on menace sa famille.
Vous lui dites d'appeler donc, la police. Il dit d'ailleurs, j'ai toujours été honnête.
Ouais,
et c'est pourquoi, pour l'instant, il dit non. Mais il dit pour l'instant, il dit quand même que ça le travaille, évidemment. Vous lui dites d'appeler la police, mais de rester avec ses 508 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire?
Et je lui dis que nous sommes en train de préparer une grande loi sur les repentis. Je le dis, on interpelle des gros bonnets. On y reviendra sans doute parce que...
On va y revenir, on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé à Marseille.
On va revenir sur les résultats, bien
semaines.
Sûr. Mais il faut inciter les gens à dénoncer et à dire les choses. Et pour ça, il faut qu'ils soient protégés quand ils le font. Ça, c'est une des clés de la réussite pour lutter contre les gros bonnets qui tiennent le trafic à Marseille.
Mais là-dessus, justement, Éric Dupond-Moretti, il y a 3 semaines, j'ai reçu le procureur de la République de Marseille, qui est venu à mon micro sur RMC, et qui parlait de mexicanisation jusque dans les prisons elle-même. Il disait, au fond, lorsqu'on arrête quelqu'un, c'est très bien, mais ensuite s'ouvre une deuxième partie, qui est aussi ce qui se passe dans les prisons, et que parfois, ils continuent à se tirer les uns sur les autres. Donc vous dites, on va les protéger en dehors, quand on n'arrive déjà pas à les protéger dans la prison.
Non, c'est pas tout à fait juste, cela. Enfin, ça mérite d'être nuancé.
Allez-y. Et d'ailleurs, mexicanisation, le mot a été prononcé par le procureur de la République.
J'entends ce qui a été dit, notamment sur les prisons. Et le fait qu'elles ne sont pas totalement étanches. Mais là-dessus, moi, je dois dire qu'on a considérablement renforcé le personnel qui est affecté au renseignement pénitentiaire. On écoute, on surveille ce qui se dit. Et parfois, de la prison, on permet la judiciarisation de trafics qui se mettent en place ou qui continuent. Vous savez, c'est un plan global. Il y a ce que nous avons fait hier, ça va durer 3 semaines. L'idée, c'est évidemment d'éradiquer ce trafic de stupéfiants.
L'éradiquer.
L'éradiquer, bien sûr. Bien sûr, on parle d'un pilonnage. Le président de la République avait dit en janvier, on va mettre en place des opérations place nette. Nous avons eu hier une première opération place nette de très, très grande ampleur, avec des tas de policiers mobilisés, avec des magistrats mobilisés en concertation avec les policiers, parce que si vous arrêtez...
Emmanuel Macron parlait de pré-judiciarisation, c'est-à-dire que les arrestations qui ont eu lieu hier, oui. Combien d'ailleurs ? Une centaine ?
98 interpellations, 63 gardes à vue au moment où je vous parle, mais ça n'est pas terminé évidemment.
Pré-judiciarisation, ça veut dire qu'au fond cette opération qui a eu lieu hier, elle avait été préparée en amont, que les enquêtes avaient déjà été menées et que ces arrestations, ce n'est pas des gens qui vont être relâchés.
Non mais la judiciarisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va fournir à la police les éléments probatoires pour permettre des poursuites. Je veux dire de ce point de vue d'ailleurs que Marseille n'a jamais condamné autant de trafiquants de stupéfiants, que les peines sont en constante augmentation. Et moi, à tous ceux qui disent, notamment sur votre chaîne, que c'est un coup de com', je dis que c'est scandaleux de s'exprimer ainsi. Parce que, d'abord, c'est injurié. Les policiers, les douaniers, les gendarmes, les magistrats, les greffiers qui ont préparé cette opération en amont, c'est un boulot considérable. Croyez pas qu'on débarque comme ça dans la cité, puis qu'on dit on va faire le ménage. Pas comme ça que ça se passe. Il y a évidemment des gens qui ont été écoutés. Il y a des arrestations, vous le savez, extrêmement importantes qui sont intervenues, importantes par, les poissons qui ont été interpellés.
Vous évoquez sans doute, et je voulais justement vous interroger là-dessus, l'arrestation de ce narcotrafiquant qui a été arrêté il y a 10 jours précisément au Maroc, qui est l'une des deux grandes têtes du trafic à Marseille. Oui. Est-ce qu'il a été extradé ?
Mais il est en passe de l'être. Et je vais vous dire sur le plan international.
Il va l'être, vous êtes sûr ?
Mais madame, on va tout faire pour qu'il le soit.
Là, je vous pose la question parce qu'il y en avait un autre qui avait été arrêté à Dubaï. Tout le monde s'était réjoui, super, tweet du ministre de l'Intérieur, etc. Et en fait, il a été relâché.
C'est la raison pour laquelle je vais aller installer dans les jours qui viennent un magistrat de liaison à Dubaï. Et franchement, mais si l'extradition à laquelle vous faites référence n'a pas eu lieu, ça n'est pas de notre fait. Chaque pays a sa souveraineté, et en particulier sa souveraineté judiciaire, mais ça ne se reproduira
pas. Mais c'est précisément, ça ne se reproduira pas. Et là, celui qui a été arrêté au Maroc, il va bien être extradé en France.
Vous savez, il y a les opérations place nette sur place. Il y a la judiciarisation. Il y a la loi sur les repentis en préparation. Il y a une mobilisation des magistrats, des greffiers. Avant l'arrivée du président de la République, je suis allé au tribunal judiciaire de Marseille pour faire le point. Je vais vous dire quelque chose. On a considérablement renforcé le nombre de magistrats, de greffiers. Depuis 2017, 53 magistrats de plus, 80 greffiers de plus, 64 contractuels. Et d'ici 2027, avec la loi de programmation, qui n'a pas été votée par tous ceux qui viennent parfois piapiater sur votre plateau, nous aurons
vous aimez bien
à
dire
Marseille.
Piapiater sur notre plateau. Vous êtes invité quand vous voulez. C'est important non, aussi mais, d'avoir votre
madame,
point de vue.
Madame, je ne vous reproche pas du tout à vous d'inviter tel ou tel. Je dis que ceux qui viennent se plaindre, c'est blablabla, blabla. Et quand, par exemple, il faut voter une loi de programmation justice pour renforcer les effectifs, il n'y a plus personne
vous
au
pensez,
balcon.
Est-ce que vous pensez
voilà
au
ce que je dis.
Parce que Marine Le Pen, ce matin, elle a dit ça exactement à propos de ce qui s'est passé à Marseille hier. Elle dénonce un énième coup de com', l'expression que vous mentionniez à l'instant. Énième coup de com' d'Emmanuel Macron à Marseille. Mobiliser 3000 à 4000 policiers et gendarmes pour récupérer 4 armes, 98 munitions et 8 kilos de cannabis, on ne va pas aller loin.
C'est scandaleux. Et 400 000 euros. Et des interpellations, 98. Et soit 63 gardés à vue. Et que propose-t-elle, Madame Le Pen ? Dites-moi ce qu'elle propose réellement, effectivement. C'est facile d'être en retrait, de regarder tout ça. Moi, je suis dans l'action, elle est dans le blabla. Voilà. Et je vais vous dire, madame, il y a eu 3 budgets. 3 budgets justice successifs. Augmentation de plus de 8%. Du jamais vu, c'est historique. Madame Le Pen, ne les a jamais votés. Et pour la police, les renforcements des forces de sécurité intérieure, elles n'étaient pas au rendez-vous de ce que nous demandions, le budget pour embaucher 12 000 policiers supplémentaires. Voilà, c'est pas avec des mots qu'on lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est avec des personnels. Et pardonnez-moi, j'ai pas tout à fait terminé. D'ici 2027, nous aurons à Marseille 12 magistrats de plus, 18 greffiers supplémentaires.
C'est là-dessus précisément que je voulais vous interroger, parce que lorsque Nicolas Besson est venu donc dans mon studio, il avait juste avant ça été face aux sénateurs et aux députés dans cette commission d'enquête sur le trafic de drogue à Marseille. Et c'est là d'abord que Isabelle Couderc, qui est donc vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, a prononcé cette fameuse phrase « Nous sommes en train de perdre la guerre contre les narcotrafiquants ». Ça, c'était il y a deux semaines. Est-ce que vous estimez que depuis, vous avez repris l'avantage ?
D'abord, je pense que cette expression n'est pas opportune.
Vous avez regretté qu'elle la prononce ?
Ah oui, et puis je l'ai dit hier d'ailleurs.
Vous lui avez dit en face ?
Oui, bien sûr.
À Marseille ?
Bien sûr, et je crois qu'elle regrette la forme. Et je dois dire que dans ma rencontre avec les magistrats...
Enfin, elle ne l'a pas dit pour faire de la peine, non, ou pas, parce qu'elle, j'imagine qu'elle constate qu'on est en train de la
Vous avez ce propos, madame de Malherbe, qui est un propos malheureux, et vous avez ce que j'ai entendu hier, une mobilisation sans faille de magistrats qui disent « Mais nous, on est tout à fait prêts, on est là, on est partant ». Puis moi, je ne veux pas de discours de défaitisme. C'est comme ceux qui expriment de temps en temps l'idée qu'on ne pourra pas réduire les délits de justice, vous savez que c'est un de mes dadas. Bon, et puis il y a un autre discours, un contre-discours, qui consiste à dire que compte tenu de la façon dont nous avons doté la justice de ce pays, comme elle ne l'a jamais été, il faut aller de l'avant et réduire les délais.
Mais précisément, sur la réduction des délais, c'est très important cette question, parce que Éric Dupond-Moretti, encore une fois, c'est un peu comme quand on dit, un tel a été arrêté, et puis qu'en fait, on se rend compte que finalement, il n'est pas forcément jugé derrière. Là, il y a eu beaucoup d'arrestations, vous avez raison, et tout le monde le constate, beaucoup plus d'arrestations ces derniers mois qu'il n'y en avait eu par le passé à Marseille. Sauf que, parfois, c'est embouteillé. Et c'est ce que disait Nicolas Besson, le procureur de la ville de Marseille, à mon micro sur RMC. Il appelait au renfort des moyens de justice pour une raison juridique. C'est qu'au fond, s'il y a ces arrestations, mais que dans un temps, dans un délai juridique valable, ils ne sont pas jugés, on est obligé de les relâcher. Et donc, ce que disait le procureur de la justice, le procureur de la ville de Marseille, il disait, si nous ne renforçons pas la capacité de jugement au niveau de la cour d'appel et de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, nous risquons inéluctablement d'avoir des remises en liberté pour non-respect des délais procéduraux. Quel comble !
Alors, d'abord, ça n'est pas arrivé. Et deuxièmement, et ça faisait l'objet d'ailleurs de cette rencontre avec les magistrats, et notamment les magistrats du parquet, il y a des renforts supplémentaires. Mais comment on fait pour réduire ces délais ?
Au moment où on se parle, il n'y a pas de risque.
Mais non.
Il n'y a pas de risque que ces gens arrêtés soient libérés pour des
Et non seulement il n'y a pas de risque, mais il y a un enthousiasme très fort de la part des magistrats qui ont envie de réussir ces opérations. Je vais vous dire, il y a trois leviers pour réduire les délais. Le premier, c'est les personnels supplémentaires, et encore, je le répète, certains de ceux qui blablatent et qui critiquent, mais au fond, quand on est dans l'opposition, on a ce droit de critiquer, n'ont pas voté les budgets, premièrement. Deuxièmement, le numérique, qui permet d'aller plus vite. Et troisièmement, madame, c'est très important, les simplifications de la procédure, et notamment de la procédure pénale, c'est en cours. Donc voilà un plan général. C'est la lettre de mission que j'ai reçue du président de la République. Il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on soit meilleur, et surtout, pas de discours de défaitisme. Parce que quand on dit qu'on peut perdre une guerre, je veux dire, on la perd.
Mais là encore, je suis un peu d'accord avec ceux qui disent que c'est de la com. Parce que vous parlez des mots. Enfin, je veux dire, j'imagine, encore une fois, je reprends ces mots de la vice-présidente du tribunal judiciaire. Je comprends qu'elle les ait regrettés. Mais la question n'est pas de savoir si elle les a pensés. La question est de savoir si elle l'a constaté.
Mais est-ce que vous savez, madame, d'où l'on vient ?
Est-ce qu'on doit ne pas dire s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ?
Est-ce que vous savez ? Mais bien sûr qu'il faut le dire. Mais moi, c'est la raison pour laquelle je rendais.
Tellement osé vous le dire.
Attendez.
Ils se sont pris quand même un peu de volée guerre.
60% d'augmentation du budget, vous voyez ce que ça représente ?
Bien sûr, c'est considérable.
C'est colossal. Et je dis que dans les discours que j'ai reçus hier, on a eu une explication de texte, évidemment.
J'avais l'air assez musclé, si j'en crois mes confrères de la Provence qui disent que...
Bah, écoutez, moi je vais vous dire, 60% d'augmentation des budgets, ça nous oblige tous. Moi, évidemment, mais également les magistrats sans qui rien n'est possible. Mais j'ai aussi entendu d'autres discours et un discours enthousiaste, un discours fort. Et puis pardon, les résultats sont au rendez-vous.
Alors il y a la question des procédures et puis il y a la question de la manière dont ils seront jugés. Là encore, j'en reviens au propos de Nicolas Besson parce qu'il a vraiment dit beaucoup de choses, ce procureur de la ville de Marseille. Il parle de la difficulté à juger dans un climat de menace, avec évidemment ce qu'on appelle désormais les narco-homicides qui se sont multipliés l'an dernier à Marseille. Il dit la difficulté, c'est que ces faits sont liés à de la menace, de la terreur. Ils sont jugés par des cours d'assises ordinaires, avec un jury populaire. Et au fond, il dit des jurés populaires qui rendent la justice dans un contexte de menace et de terreur, ça ne nous semble plus adapté. Qui penserait faire juger encore aujourd'hui par des jurés populaires des actes de terrorisme. Ce sont des magistrats spécialisés, investis, payés pour ça. Nous appelons donc à une évolution législative pour prendre en compte ce phénomène particulier. Allez-vous répondre positivement à cette demande ?
Il a raison, le procureur Besson, sur ce point. Il y a un paradoxe en droit français, c'est que les trafiquants de stupes haut niveau sont jugés par des magistrats professionnels. Mais les trafiquants de stupes haut niveau, quand ils se tuent, sont jugés, pour ceux qui sont les auteurs, par des magistrats non professionnels sur lesquels il y a une possible emprise, possible menace, etc. Donc oui, une réflexion est d'ores et déjà en cours sur cette question.
À titre personnel, vous souhaitez faire évoluer la juridiction si c'est possible?
Écoutez, juger des trafiquants de haut niveau, les faire juger par des magistrats professionnels, mais les assassins, dans le cadre de ces trafics, les faire juger par des jurés, il y a un paradoxe, je pense que je réponds à votre question en disant ce que je viens de vous dire.
On l'a bien entendu, il y a aussi la question de la corruption. On a parlé d'une corruption à bas bruit qui toucherait à la fois les fonctionnaires de police, mais aussi l'administration pénitentiaire. Ils sont approchés, menacés, voire achetés. Non, est-ce que là, vous avez les moyens de lutter contre ça? Est-ce que vous le constatez ou est-ce que ça n'est qu'une rumeur?
Non, mais ça, je vais vous dire, madame. S'il y a des faits avérés de corruption, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, il faut immédiatement que le parquet s'en saisisse et qu'il fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire le ménage. Mais ce propos, tel qu'il a pu être tenu ou entendu, c'est un propos totalement délétère.
Délétère.
Enfin, madame, moi, je ne veux pas retenir cela. Qu'il y ait
Encore une fois, c'est toujours pareil. Moi, je n'ai pas du tout envie de retenir ça. Je n'ai qu'une envie, c'est de dire que tout va bien. Mais si les choses ne vont pas bien, faut le dire.
Vous comprenez, quand vous présentez les choses, les téléspectateurs qui
c'est
nous entendent.
C'est pas moi qui le dis. Encore une fois, c'est le procureur de la ville de Marseille.
Mais il a eu tort.
Il a dit ces mots à mon. Il a dit ils sont approchés, menacés, voire achetés.
Madame, c'était inutile de s'exprimer ainsi pour une raison simple. Si le procureur de Marseille.
Ils ont trop osé parler, quoi.
Plus trop osé parler, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on raconte là? On jette la suspicion sur la police, sur le greffe, sur les agents pénitentiaires? Enfin franchement, s'il y a des faits qui sont avérés, de corruption possible, il y a beaucoup d'argent dans tout ça. Eh bien on prend les dispositions qui s'imposent. Mais on ne jette pas la suspicion sur l'ensemble de ces corps. D'ailleurs, je vais vous dire que le procureur général n'a pas soutenu ces propos. Je tiens quand même à vous le dire.
Le procureur général n'a pas soutenu ses propos.
Non, absolument pas.
Il nie, il n'y a pas de corruption.
Madame, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'affaire de cette nature. Et s'il devait y en avoir une, mais allons-y, hardi petit, et faisons le ménage. Il n'y a pas plus de difficulté que ça. Mais laisser supposer que tout serait gangréné par la corruption, c'est pas vrai, ça n'est pas juste, et c'est offensant à l'égard de tous ceux, policiers, gendarmes, douaniers, magistrats, greffiers, qui bossent au jour le jour, dans le but d'éradiquer le trafic de stupéfiants. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et qu'il y ait quelques exceptions, j'en accepte l'augure, mais alors il faut que l'on prenne les mesures qui s'imposent, et c'est le rôle du procureur de la République.
Éric Dupond-Moretti, la sœur de Samuel Paty, a demandé hier à l'État de reconnaître sa responsabilité dans la mort de son frère. Elle estime que les menaces qui pesaient sur Samuel Paty n'ont pas été suffisamment prises en compte, qu'il y a une forme de responsabilité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et est-ce que l'État acceptera d'être en quelque sorte jugé?
Madame, je ne réponds rien, je suis garde des Sceaux, je vous ai déjà fait cette réponse à plusieurs reprises. Je ne peux pas commenter une affaire qui est une affaire en cours. Cette dame peut saisir l'agent judiciaire de l'État en responsabilité, j'entends. Nous verrons ce que la justice dira. Vous me permettez de revenir deux petites secondes en arrière, non pas que ce sujet-là ne soit pas un sujet important. Mais je veux dire que le trafic de stupes, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire des policiers, des douaniers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers.
On l'a entendu avec le témoignage de Frédéric, c'est l'affaire de tout le monde.
Ce que je veux vous dire, madame, c'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, Ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais qu'on remette tout ça dans le bon ordre. Hein. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Ça, je veux le redire ici, c'est l'affaire de tout le monde.
Est-ce que vous allez vraiment condamner ceux qui consomment ?
Madame, il y a les AFD qui fonctionnent bien. Hein ? Vous savez ce que c'est ? Ça a été d'ailleurs bien critiqué. Ce sont les amendes forfaitaires délictuelles. On n'en a jamais délivré autant. Et puis, disons-le quand même, à des fins prophylactiques, le shit d'aujourd'hui, c'est pas le shit de 68. Il est 10 fois plus puissant en teneur THC et il génère des schizophrénies. Je le dis aussi parce qu'il y a un impératif de santé publique.
Une responsabilité et un danger.
Oui, c'est l'affaire de tout le monde.
Éric Dupond-Moretti, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes évidemment le ministre de la Justice. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.